France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un magot, des kilos d'or, caché dans un cimetière en 1986 et déterré 2 ans plus tard. Une histoire qui rassemble la célèbre gang de braqueurs, en l'occurrence les postiches, le couple de criminels Michel Fourniret et Monique Olivier, en passant par un dollar proche d'Action Directe et un truand italien d'extrême droite. Un scénariste n'aurait pas fait mieux. Le butin, c'est donc celui du gang des postiches, ces braqueurs qui sévissent au début des années 80 et qui font la une de la presse. Déguisés et grimés, ils s'attaquent au coffre des particuliers. Bijoux, pièces d'or, lingots, tout y passe. En quelques années, ils accumulent des millions de francs. Acculés et cernés par la police en 86, les postiches décident de cacher une partie de leur magot dans un cimetière de la banlieue parisienne. Mais dans leur cavale, ils ont emmené un Italien qui a eu connaissance de ces trésors cachés. Le secret tombe ensuite dans les oreilles d'un certain Jean-Pierre Elguarche, toujours en prison. Il missionne alors un ex-codétenu un peu particulier pour aller chercher le butin, un certain Michel Fourniret. Notre invité aujourd'hui, Patricia Touranchot, journaliste et autrice de 2 ouvrages, « Les postiches, un gang des années 80 », publié chez Fayard, et « Le magot », édité au Seuil. Elle a également adapté cet ouvrage en série documentaire intitulée « Le magot », réalisé par Pierre Chassigneux et diffusé sur Canal+. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Adrien Mora. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Madame, monsieur, bonjour. Nous avons choisi de commencer ce journal en revenant sur un braquage de banque qui a eu lieu hier après-midi rue d'Alésia à Paris.
Le gang des postiches a encore frappé hier, 4 jours après son coup d'éclat de la rue d'Alésia à Paris, un commando de 8 gangsters, pourvus de fausses barbes et de fausses moustaches très fournies, a vidé hier en fin d'après-midi 150 coffres d'une agence de la Société Générale à Passy.
Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire.
Mars 1984, un gang de braqueurs enchaîne les cases dans toute la région parisienne. Déguisés en diplomates russes ou en rabbins, grimés, ces truands sont baptisés les postiches. Au JT, la France adore. On découvre chaque jour les nouveaux méfaits des Robins des Bois modernes qui annoncent contrôle fiscal quand ils entrent dans les banques. Braquage après braquage, les millions s'accumulent. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, de nombreux tollards suivent avec admiration les exploits des postiches, à la radio ou à la télé. Mais personne ne sait vraiment qui ils sont. Terroristes d'extrême gauche ou grands bandits, les paris sont lancés. Dans sa cellule, Michel Fourniret découvre la détention. Incarcéré pour plusieurs agressions et viols sur mineurs, l'homme, qui va avoir 42 ans, partage sa cellule avec un certain Jean-Pierre Elguarche, un truand proche d'Action Directe. Ce dernier raconte sa rencontre avec Michel Fourniret dans la série documentaire « L'affaire Fourniret » intitulée « Dans la tête de Monique Olivier » réalisée par Michel Fine et Christophe Astruc et diffusée sur Netflix.
J'ai connu Fourniret parce qu'il a été affecté à la cellule où je me trouvais. À l'époque, c'était vraiment monsieur tout le monde ou monsieur n'importe qui. Enfin, il ne ramenait pas, il se faisait oublier.
Jean-Pierre Elguarche est un vrai dur, condamné à mort dans l'Espagne franquiste, évadé, braqueur, trafiquant, bref, un gros bonnet. Le genre de type à ne pas trop apprécier les pointeurs, comme on surnomme les agresseurs sexuels. Mais contre toute attente, Elguarche va prendre en sympathie Fourniret. Oui, ce petit gars d'1m65 qui minimise les faits pour lesquels il est en prison. Dans la cour de promenade, il va même le protéger. Janvier 86, les postiches réapparaissent à la une du journal de France Inter.
Le journal, Patrice Bertin.
Au sommaire ce soir, hold-up sanglant dans le 16e arrondissement de Paris, un policier et un gangster tués à la sortie d'une banque, un deuxième policier grièvement blessé, probablement le gang des postiches.
Après ce braquage, l'un des postiches, Jean-Claude Michka, parvient à trouver une planque en banlieue parisienne, ailleurs, dans l'Essonne. Il cache une grande partie du magot dans les murs de la maison. Et surtout, il note les cotes sur un papier, histoire de retrouver les lingots le jour où, avec ses complices, ils voudront les récupérer. Ensuite, direction l'Italie, l'endroit idéal pour une cavale. Il y a du soleil et pas ou peu d'extradition. Les postiches franchissent les Alpes à ski. Et ils se pensent tranquilles, d'autant que le nouveau ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, est occupé à terroriser les terroristes. Et puis, les policiers sont aussi sur les traces de deux tueurs à l'époque, le Grélet et Thierry Paulin, le tueur de Gaïdame. Alors, pour les postiches, c'est pas bouger, se faire le plus petit possible. 5 août 1986. Lors d'un banal contrôle routier, André Belaïche et Patrick G sont arrêtés par les carabiniers. G s'échappe, mais Belaïche est condamné. Incarcéré dans sa prison de Rebibia, il organise son évasion par hélicoptère. Un plan audacieux qui réussit le 24 novembre 1986. Dans sa fuite, André Belaïche emmène avec lui un braqueur italien proche de l'extrême droite, un certain John Luigi Esposito. Retenez bien ce nom, Esposito. C'est l'une des clés de notre histoire. Récit de l'évasion sur Antenne 2.
Spectaculaire évasion en hélicoptère de deux détenus dans une prison romaine. L'un d'eux avait participé en 1975 à Paris à une retentissante prise d'otage avant de s'enfuir à la barbe des policiers avec un butin d'1 million de francs. De Rome, Cyril Sauvenière.
Il y avait comme un défaut dans le système de surveillance des détenus de la prison de Rebibia. Les gardiens n'en ont pas cru leurs yeux quand vers 14h, une échelle de corde descendue du ciel a emporté bien loin des murs de la prison Luigi Esposito, 30 ans, et André Belaïche, 36 ans.
Les postiches avaient bien prévu l'évasion en hélico, baptisée « évasion à la française » par les Italiens. Mais pour la suite, rien. Alors, ils prennent la route en catastrophe pour rejoindre leur plan de hier en banlieue parisienne. Les enquêteurs italiens remontent vite la piste des évadés, en décodant des documents laissés dans leur fuite. Leur planque est localisée et l'info est transmise à leurs homologues français qui comprennent vite qu'ils ont affaire aux postiches. La maison est mise sous surveillance, mais ils n'interviennent pas tout de suite. Alors, les postiches se mettent en tête d'aller cacher une partie de leur magot. Oui, mais où ? L'idée leur vient très vite. L'un des membres confiera plus tard à Patricia Touranchot. Vous savez, c'est tout bête. On avait repéré ce petit cimetière tranquille à l'écart du bourg de Fontenay en Parisie, car il se trouvait vers la maison de campagne de l'avocat de l'un d'entre nous. Dans un cimetière à côté d'une tombe. Ils partent à quatre, avec des pelles, direction Fontenay en Parisie. Gianluigi Esposito, présent dans la voiture, est invité à rester à l'écart pendant que les autres cachent le magot. Après tout, ce n'est pas son argent. Toujours détenu à Fleury-Mérogis, Michel Fourniret, lui, publie une petite annonce dans le magazine chrétien Le Pèlerin qui dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Le lendemain, le 13 décembre 86 au matin, le raid prend d'assaut la planque des postiches. Ils prennent les braqueurs par surprise et balancent de puissants gaz lacrymogènes. Tous les braqueurs sont interpellés. Le coup de filet fait la une du JT d'Antenne 2.
Madame, Monsieur, bonsoir. Un très gros coup de filet pour la police ce matin à Hyères, dans la région parisienne. 4 truands, dont les 2 qui s'étaient évadés en hélicoptère le mois dernier d'une prison italienne. Les 4 hommes ont été arrêtés par les commandos de la police. Il y avait aussi parmi eux l'un des malfaiteurs soupçonnés d'avoir abattu un policier après le hold-up de la rue du Docteur Blanche à Paris. C'était au mois de janvier dernier. Une bande qui serait d'ailleurs à l'origine du fameux gang des postiches. Isabelle Bechler, Noël Alexandre.
Des dizaines de diamants dessertis, de l'or, du platine, des montres à gousset, des montures de bijoux écartelées, des pièces d'or pour plus d'1 million de francs, des passeports vierges, des armes, plus de 350 000 francs liquides, de quoi tenir un siège et organiser une cavale de vous au vol. Belle prise pour la police.
Le lendemain, les enquêteurs italiens donnent un nouveau document décodé aux Français. Il s'agit des consignes notées pour chercher le magot dans les murs de la planque. Tu casses les 2 cloisons rayées que tu as sur le plan. La chambre 3, 2 trous dans la cloison, côté escalier, hauteur 1 mètre du sol. Dans la cave, 2 trous, profondeur 1 mètre. Toujours en prison, dans l'attente de son procès, Michel Fourniret reçoit une réponse à sa petite annonce publiée dans Le Pèlerin. Elle provient d'une certaine Monique Olivier, une femme de 38 ans qui habite dans le Gard. En quelques mois, durant l'année 87, Fourniret envoie 133 lettres à celle qu'il baptise très vite Natouchka. Elle répond 84 fois son dollar préféré. Michel Fourniret ne lui cache rien. et l'invite même à venir le voir lors de son procès de juin, où il est condamné en cour d'assises à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il bénéficie notamment de requalifications de viol en attentat à la pudeur. Incarcéré depuis 3 ans et demi, il sait qu'il va sortir rapidement de Fleury-Mérogis, Fourniret. Lors de sa correspondance avec Monique, il lui parle d'un ami qu'il s'est fait en prison. « J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir une lettre de Jean-Pierre, qui est au Détroit, une autre aile de la prison, et qui espère sortir prochainement. C'est un gars extraordinaire, mais je t'en parlerai. » Il commence alors à nouer un pacte diabolique avec Monique Olivier. Il la vengera de son ex-mari et elle l'aidera à trouver des jeunes filles, promis. Dans son ouvrage « Le Magot », Patricia Touranchot dévoile une partie de cette correspondance.
Dans « Propos d'un samedi matin », le 5 septembre 1987, Fourniret établit son « programme » pour l'avenir. D'abord, régler les comptes avec la famille. Puis, passer mon temps à rêver, aller où j'ai envie, rester sur place ou voyager selon l'humeur du jour, avoir assez d'argent pour oublier l'argent. Il annonce la couleur côté crime. Liquider 3 types, leur dernière partouze d'ordures. Il jette ensuite sur le papier des mots d'une crudité inouïe qui le conduiront au viol de petites filles. Disposer d'une jeune fente. Retour à la ligne. Il enchaîne avec des souhaits plus terre à terre. Une compagnie féminine, jouer aux échecs, vivre en sauvage à l'écart des hommes, vivre en aventurier. Plaisir du risque, enlèvement, etc. Fourniret vient de glisser un autre projet criminel au milieu de son programme. Kidnapper. Il poursuit sur ses désirs de liberté. Pas de fil à la patte, pas de môme, pas d'habitude. Il envisage déjà d'acquérir un château, et pas forcément de façon légale. Restaurer un domaine, une ruine médiévale. L'acheter d'abord ? Non. En devenir propriétaire. Ce n'est pas la même chose.
Dans sa lettre en date du 17 septembre 1987, Monique Olivier scelle son pacte criminel avec Michel Fourniret qui, rappelons-le, n'a encore tué personne. Elle lui écrit « Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. Tu sais, ta Natushka est prête à t'aider dans beaucoup de choses. Elle veut se savoir utile. Non, je ne suis pas une petite bourgeoise. Je vais travailler auprès de mon fauve, le seconder. Cela me ferait tellement plaisir. Comprends-tu ce que je veux dire ?» Octobre 87, Michel Fourniret est libéré pour bonne conduite et Monique Olivier tient parole. Elle l'attend à sa sortie. Le nouveau couple emménage dans une maison à Saint-Cyr-les-Colons, dans l'Yonne. Quelques semaines après sa sortie de Fleury-Mérogis, les deux se présentent devant les portes de la prison. Ils abordent une jeune femme trentenaire. C'est Farida Amish. Elle est la femme de Jean-Pierre Elgouarche. Michel Fourniret lui explique qu'il a promis d'apporter son aide s'il sortait de cellule en premier. Et il lui donne son numéro de téléphone si jamais elle a besoin d'aide. Farida confie cette approche à Jean-Pierre Elgouarche, qui s'en amuse. Et le couple se moque des Fourniret, ces caves, qu'ils baptisent les Popeye, en référence au gros bras de Michel. Des braves gens inoffensifs, pense-t-il. Puis ça ne coûte rien de garder le lien. Après tout, ils peuvent toujours donner un coup de main. En réalité, le couple Fourniret-Olivier ne tarde pas à débuter son parcours criminel. Le 11 décembre, il met son projet à exécution et enlève une jeune lycéenne de 17 ans. Fourniret la viole et l'étrangle. Monique Olivier est complice. Isabelle Laville est ainsi la première victime de ce couple diabolique. Une semaine plus tard, direction le domicile de l'ex-mari de Monique, près de Nantes. Objectif, le tuer, comme prévu. Mais il n'est pas présent. Alors le couple se venge en brûlant 120 toiles de ce peintre, beaucoup de nus de Monique d'ailleurs. Début 1988, cour de Fleury-Mérogis. C'est là que les deux histoires s'entremêlent, celle des postiches et de leurs magots cachés dans le cimetière et la carrière criminelle des Fourniret. Souvenez-vous, Jean-Pierre Elouarche, proche d'Action Directe, c'est lui qui a protégé Fourniret en détention. L'Italien d'extrême droite, Gianluigi Esposito, lui s'est évadé de la prison italienne de Rebibbia avec André Velaïche et a été interpellé ailleurs avec les postiches. Elgouarche et Esposito se rencontrent et l'Italien va lui livrer un secret. Seul, la prison et l'argent sont capables de rapprocher des hommes aux convictions opposées. L'Italien, qui s'est fait arrêter avec les postiches, va être extradé dans son pays d'origine. Mais qui a donné à Esposito l'emplacement du magot des braqueurs? Assurément l'un des postiches, oui, mais lequel? Probablement Jean-Claude Mischka. Mais une chose est certaine, Esposito sait où se trouve le magot et il compte bien rafler la mise. Il demande alors à Elguarge de trouver quelqu'un pour aller le déterrer et ainsi aider sa famille en Italie. Elguarge écoute attentivement, note l'emplacement et se dit « Je vais à mon tour le doubler et le magot sera à moi ». Il pense d'emblée à sa femme Farida pour aller chercher les lingots d'or. Mais elle a besoin d'être accompagnée. Et pourquoi pas par les fournirés? Après tout, ils sont loyaux. Et contre une petite part du butin, ils ne peuvent pas refuser. D'autant que les deux vivent dans la dèche. Dans la série documentaire « L'affaire Fourniret » dans la tête de Monique Olivier, réalisée par Michel Fine et Christophe Astruc et diffusée sur Netflix, Jean-Pierre Elguarge explique pourquoi il a fait confiance au couple.
Il est là avec la Monique Olivier. Le fait qu'il soit accompagné, qu'il soit avec une femme, le fait qu'il soit toujours en couple, je me dis qu'on ne risque pas grand-chose. Mais là, je fais un très mauvais calcul.
Mars 88, le prisonnier Gianluigi Esposito est extradé vers l'Italie. Les fournirés, eux, acceptent la proposition de Farida Amish et de Jean-Pierre Elguarge. Donc, direction le cimetière de Fontenay en Parisie. Monique reste dans la voiture pendant que Farida et Michel se dirigent vers la tombe indiquée, armés de pelles et de lampes. Avec enthousiasme et excitation, ils se mettent à fouiller. Et ils ne tardent pas à tomber sur quelque chose de dur. Michel sort une caisse avec des dizaines de lingots d'or et il confiera ce soir-là avec Farida. On se sentait comme frères et sœurs. Ensuite, les fournirés raccompagnent Farida dans son appartement de Vitry-sur-Seine. Ils l'aident à aménager une petite cage dans les toilettes. Et tout se déroule à merveille. Les fournirés repartent avec leur part, 500 000 francs. Farida, elle, annonce lors d'un parloir à Jean-Pierre Elguarge que la mission est accomplie, les voilà riches. De retour chez lui, Michel Fourniret repense à tous ces lingots qu'il a eus dans ses grosses mains, si proche d'être riche comme il le souhaite. 500 000 francs, c'est bien, mais pas forcément suffisant. Alors, dans sa tête, un projet mûrit. Il sait où se trouve le magot. Et puis, même si Jean-Pierre Elguarge est son ami, ces centaines de milliers de francs lui font tourner la tête. Il se rend alors avec Monique Olivier chez Farida, sans la prévenir, et il va lui tendre un piège.
Bye.
Aujourd'hui, le magot des postiches.
France Inter, affaires sensibles.
Avril 88. Comme prévu, les Fourniret expliquent à Farida Hamish qu'ils doivent aller déterrer des arbres en forêt, qu'ils ont besoin de son aide. Ils la rejoignent à Vitry-sur-Seine et prennent sa voiture, direction la forêt de Rambouillet. Mais au milieu du chemin, Michel demande à Farida de s'arrêter sur le bas-côté. Il sort un lacet et l'étrangle. Farida se débat, Fourniret se saisit alors d'une baïonnette cruciforme et la poignarde à plusieurs reprises. Sans rien dire, Monique observe cette nouvelle scène de meurtre. Les Fourniret partent ensuite enterrer le corps dans un endroit encore inconnu aujourd'hui. Puis ils repartent à Vitry-sur-Seine pour récupérer le magot. Ils laissent quelques pièces et lingots car ils ont un plan derrière la tête. Faire croire à Jean-Pierre Elgouarche que Farida est partie avec un amant et le magot. Il dépose sa voiture dans un parking gratuit de l'aéroport d'Orly. Monique va voir Elgouarche au parloir et pleure la disparition de Farida. Les Fourniret se rapprochent aussi de sa famille et l'aident dans leur recherche désespérée. Tellement froid, cynique, diabolique. Juillet 88, Monique Olivier demande à Jean-Pierre Elgouarche s'il peut être le parrain de leur futur enfant. Le mois suivant, Michel Fourniret viole et tue Fabienne Leroy. Le 9 septembre, c'est la naissance de leur petit Selim. Un mois plus tard, son parrain, Jean-Pierre Elgouarche, donc, sort de prison et les Fourniret sont là, qui l'attendent comme c'est touchant. 5 janvier 89, Patrick G., l'un des membres du gang des postiches, sort de prison. Peut-être se rend-il au cimetière de Fontenay en Parisie pour chercher le magot. Toujours est-il qu'il n'y a plus rien. Et il est loin de se douter que le trésor caché a permis à un couple de criminels d'acheter un château dans les Ardennes pour une somme d'1 200 000 francs. Dans la série documentaire Le Magot, l'avocate Corinne Herman détaille cet achat immobilier.
Le château est acheté au nom de Monique Olivier. Michel Fourniret fait ça souvent pour faire des pare-feux, en fait. Il est acheté cash et personne ne s'interroge sur le fait qu'il a acheté cash ou trop tard. On va les redresser, ça suffira, on ne va pas aller s'intéresser à ce qu'un ex-taulard qui vient de sortir de prison, qui n'a pas de travail, peut acheter un château de plus d'1 000 000 francs à l'époque. Et en fait, le magot, il va le gérer très bien parce que c'est ce qui va lui permettre de vivre sa carrière criminelle quasiment.
Michel Fourniret a atteint l'un de ses objectifs, devenir châtelain. Il a également acheté une camionnette blanche qui sera l'un de ses outils pour sa carrière criminelle. Le 18 mars, il tente de violer et tue une jeune étudiante, Jeanne-Marie Desrameau. Le 28 juillet, les Fourniret se marient à Foin dans les Ardennes, sans aucun invité. De son côté, Jean-Pierre Elgouarche est toujours à la recherche de sa femme Farida. Un temps, il a soupçonné les Fourniret et leur a rendu visite dans les Ardennes. Mais, prudent, le couple a gardé sa vieille bicoque et il accueille le parrain de leur fils à bras ouverts, mais dans la misère. Et évidemment, ils ne sont que des braves gens. Les 500 000 francs, disent-ils, ils les ont dépensés pour payer les amendes et les parties civiles du premier procès de Michel Fourniret. Donc, ils n'ont plus d'argent. Alors, Jean-Pierre Elgouarche dort dans une caravane au fond du jardin, sans savoir qu'enterré sous ses pieds, il y a le magot. Michel lui demande même de lui couper les cheveux, histoire de ne pas payer le coiffeur et de l'emmener à son nouveau boulot pour économiser l'essence. Un double jeu expliqué par maître Didier Seban, l'avocat de Jean-Pierre Elgouarche, dans la série documentaire Le Magot, réalisée par Pierre Chassigneux et Patricia Touranchot en 2022, et diffusée sur Canal+.
Michel Fourniret est prudent. Il garde sa masure à Foin. C'est-à-dire qu'il a à la fois le château et une petite maison un peu pourrie, ce qui va encore tromper Jean-Pierre Elgouarche quand il va venir aux nouvelles.
1er août 90, la police commence à s'intéresser à ses propriétaires de château. Car enfin, comment cet ex-taulard a-t-il pu se payer une telle demeure? Alors ils suivent une piste, celle d'Action Directe et du terrorisme d'extrême gauche. Et ils font le lien entre Michel Fourniret et Jean-Pierre Elgouarche. Les deux hommes sont entendus. Le château du Sautou est même perquisitionné, comme l'explique l'enquêteur Jean-Louis Vesca dans la série documentaire Le Magot.
Et puis, on fait la perquisition dans le château. On ne trouve rien. Le château est entièrement vide. Les caves sont vides. Il reste juste un petit peu de matériel de cuisine. Et dans le pavillon de gardien, occupé par le sieur Fourniret, Bah, c'est assez sale, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de notable. Lui et son épouse vont être entendus, et puis c'est fini.
20 décembre 90, les Fourniret kidnappent une jeune fillette de 12 ans, Elisabeth Brichet. Toujours le même scénario sordide et macabre. Avec l'aide de sa femme, il la viole et la tue. La disparition de la fillette marque toute la Belgique. Jean-Pierre Elguarche apprend lors d'une garde à vue que Michel Fourniret a fait l'acquisition d'un château dans les Ardennes. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Mais il ne dit rien à la police. À sa sortie du commissariat, il est décidé. Armé d'un calibre, il prend sa voiture direction les Ardennes, bien décidé à se venger des Fourniret. 9 janvier, dans les Ardennes, Jean-Pierre Elguarche arrive aux abords du château du Sautou, armé et décidé à se venger. Il a compris. Les Fourniret l'ont trompé. Ils ont volé le magot et tué sa femme, Farida. Lorsqu'il pénètre dans l'enceinte du château, un véhicule s'échappe en sens inverse. À son bord, Michel Fourniret. Jean-Pierre Elguarche se présente devant la porte du château. Il est accueilli par Monique Olivier, qui a son bébé dans les bras. Énervé, Elguarche lui explique tout. Redoutablement fourbe, Monique Olivier va jouer la comédie. Mais moi, je n'y suis pour rien, Jean-Pierre. Maître Didier Seban, avocat de Jean-Pierre Elguarche, raconte comment il s'est fait duper dans la série documentaire Le Magot.
Il va se retrouver, Jean-Pierre Elguarche, avec Monique Olivier, dont il ne doute pas une seconde, parce que dans sa vision des grands bandits, les femmes ne peuvent pas participer à ce genre d'affaires. Il croit encore en Monique Olivier, Jean-Pierre Elguarche. Il croit qu'elle va pouvoir l'aider à attraper Michel Fourniret. Il se trompe bien.
Après le départ de Jean-Pierre Elguarche, Monique Olivier s'empresse d'appeler Michel Fourniret. Vite, il faut partir, il sait tout. Les Fourniret quittent alors le Sautou dans la précipitation, un château qu'ils revendront plus tard. Ils traversent la frontière pour s'établir en Belgique dans une ferme à Sarthe-Custine. Jeudi 4 avril 96, jour de verdict pour les membres du gang des Postiches, jugés aux Assises de Paris. Jean-Claude Bichka et Robert Marguerite écopent d'une peine de 12 ans pour 7 braquages. André Belaïch, lui, s'en sort bien avec 8 ans de prison pour association de malfaiteurs, évasion en hélicoptère et recel de vol. Parce qu'on n'a pas pu prouver qu'il avait participé au braquage. Patrick G., qui ne s'est pas présenté au procès, lui est condamné par contumace à 30 ans de prison. Tous sont bientôt libérables, et tous vont sortir à tour de rôle, et avec chaque fois cette idée en tête, remettre la main sur le magot du cimetière de Fontenay en Parisie. Et à chaque fois la même déception, quelqu'un est passé avant. Alors qui ? L'un des membres des Postiches ? Les soupçons commencent. Belaïch ouvre les boutiques de CD et DVD à Paris. Mais avec quel argent? Tous se soupçonnent mutuellement et les anciens amis braqueurs se brouillent. Jean-Claude Bichka, qui n'a plus d'argent et vit chez sa mère, ne se remettra jamais de la perte de son magot. Il se suicide d'une balle dans la tête le 11 février 2003. Jean-Pierre Elguarche, lui, qui enchaîne les démêlés avec la justice, n'oublie pas les Fourniret. Oh, il a perdu leur trace, mais il porte plainte au parquet de Créteil en expliquant que Fourniret a tué sa femme Farida Amiche pour récupérer un magot. Histoire invraisemblable, selon les policiers, comme le raconte l'avocat d'Elguarche dans la série documentaire Le Magot.
Jean-Pierre Elguarche ne lâche pas l'affaire puisqu'il va écrire au procureur de la République pour lui dire « Écoutez, je sais qui a tué Farida Amiche. Je vous demande d'enquêter sur un certain Michel Fourniret. Je sais que c'est lui qui a fait disparaître ma femme. » Ce courrier ne sera pas vraiment pris au sérieux. Un Jean-Pierre Elguarche qui dénonce un meurtre, ça n'est pas forcément crédible. Et malheureusement, cette dénonciation ne sera pas suivie des faits. Ça aurait été l'occasion d'arrêter Michel Fourniret dans son parcours criminel, si on l'avait cru. Et c'est une des fautes de la justice dans ces affaires.
Eh oui, rappelons-le, à l'époque, en 98, Michel Fourniret et sa femme continuent de violer, de tuer. Mais ils n'ont pas été pris. Pourtant, la dénonciation de Jean-Pierre Elguarche aurait pu mettre fin à cette sombre série de crimes affreux. 16 mai 2000, Céline Saison, 18 ans, est enlevée à Charleville-Mézières. Son corps est retrouvé 2 mois plus tard dans une forêt en Belgique. 5 mai 2001, Manana Tumpong, 13 ans, est enlevée à Sedan. Son corps est retrouvé 10 mois plus tard dans une forêt, en Belgique. 26 juin 2003, Marie Ascension, 13 ans, est enlevée à Ciney, en Belgique. La jeune fille parvient à s'échapper de la camionnette blanche de Michel Fourniret et stoppe une automobiliste qui la recueille. Ensemble, elles retrouvent la camionnette, notent la plaque d'immatriculation et alertent la police. Un réflexe qui sonne le glas du parcours criminel de celui que la presse va baptiser l'ogre des Ardennes ou le Dutroux français. France 3 relate son arrestation.
Jeudi, ce forestier français expatrié est arrêté chez lui en Belgique, accusé d'avoir enlevé et tenté d'abuser d'une adolescente de 12 ans. La jeune fille, qui est parvenue à s'échapper, va livrer un précieux récit à la police. L'homme l'a persuadée de monter dans son fourgon, prétextant chercher une adresse. L'agression a été commise en plein jour et par ruse. Ce mode opératoire alerte les enquêteurs belges. Le scénario apparemment très rodé rappelle des hypothèses émises dans deux autres dossiers. La disparition de Céline Saison, retrouvée morte en juillet 2000 dans les Ardennes belges, et celle de Manania Tomfong, 13 ans, dont le corps sera découvert en mars 2002, également dans un bois près de la frontière.
Les enquêteurs belges et français ont de nombreuses questions à poser à Michel Fourniret, incarcéré. Mais ils vont aussi enchaîner les interrogatoires avec sa femme, Monique Olivier, qui, elle, est laissée libre. C'est au bout d'interminables auditions que la vérité éclate, 110 précisément. Monique Olivier, elle, craque au bout du 121e interrogatoire. Elle évoque notamment le meurtre de Farida Hamish et elle indique où est caché le reste du magot, enterré dans le jardin. Un an après son arrestation, le 1er juillet 2004, Michel Fourniret fait des aveux circonstanciés. France 2 rappelle les faits dans son JT.
Visage impassible, Michel Fourniret marche entre deux policiers belges devant le palais de justice de Dinan. Sans protection ou presque, voici celui qu'on appelle ici le Dutroux français. Un délinquant sexuel condamné en France en 87 à 7 ans de prison. Dénoncé aujourd'hui par sa femme pour d'autres crimes, il vient d'être entendu par la police judiciaire de Reims. Désormais, Fourniret est soupçonné dans une dizaine d'affaires de viol et de meurtre, avec à chaque fois des agissements similaires.
Trois semaines plus tard, le 24 juillet, Libération sort un scoop. La journaliste Patricia Tourancheau met au jour une incroyable histoire. Les Fourniret ont volé le magot du gang des Postiches. 27 mars 2008, cour d'assises des Ardennes. C'est l'ouverture du premier procès Fourniret. Le 14 mai, Jean-Pierre Elguarche est appelé à la barre pour témoigner sur son ancien co-détenu de cellule. Les journalistes de France 3 sont également présents.
Jean-Pierre Elguarche est un homme à qui on ne la fait pas. Membre d'Action Directe, trafiquant de drogue, à 65 ans aujourd'hui, son nombre d'années passées derrière les barreaux se compte en dizaines. Et ce matin, à son arrivée en provenance de Fresnes, il est encadré de 3 gendarmes. Pourtant, avec Michel Fourniret, qu'il a rencontré en cellule à Fleury-Mérogis, il avoue à la barre « Je n'ai pas vu de danger ». Elguarche Fourniret, c'est un face-à-face très attendu. Les salles de la cour d'assises sont combles. Et donc Elguarche raconte les quelques semaines passées en cellule commune avec l'accusé. Et il affirme, il se comportait comme un toutou. Il raconte aussi comment le couple Fourniret-Olivier vient le chercher à sa sortie de prison, l'invite dans leur maison de Floin. Fourniret-Olivier, qui compatissent avec la douleur du compagnon de cellule. Pendant sa détention, sa femme Farida a disparu, s'est envolée. Fourniret-Olivier ont tué sa femme, volé son magot, 80 kilos d'or. Il attend maintenant des explications.
Michel Fourniret et Monique Olivier sont condamnés tous les deux à la prison à perpétuité. 2 ans plus tard, ils divorcent. 13 novembre 2018, cour d'assises des Yvelines. 10 ans après le premier procès Fourniret, s'ouvre celui de l'assassinat de Farida Hamish. Jean-Pierre Elguarche veut des réponses. Où est le corps de sa femme? Michel Fourniret a-t-il violé Farida? Monique Olivier a toujours mis à part ce meurtre, selon elle, purement crapuleux. Les journalistes de France 2 couvrent le procès.
Pour mener à bien son projet de garder la presque totalité du butin, Michel Fourniret et Monique Olivier décident de tuer Farida Hamish, l'épouse de Jean-Pierre Elguarche, commettant ainsi l'un de leurs premiers crimes.
C'est celui qui va lui permettre pendant 15 ans de faire son parcours criminel en lui donnant les moyens financiers de celui-ci.
Si Fourniret a reconnu l'assassinat, en revanche, il conteste avoir eu connaissance de l'origine des fonds. Avec l'argent du gang des Postiches, le couple Fourniret s'est acheté une maison en Belgique et le château de Sautou. En 2004, les enquêteurs y ont retrouvé le corps de deux des victimes de Michel Fourniret.
Monique Olivier et Michel Fourniret sont condamnés pour le meurtre de Farida Hamish. Mais son corps ne sera jamais retrouvé. Le couple n'a pas donné d'indication. Michel Fourniret est mort en détention le 10 mai 2021 avec tous ses secrets. Monique Olivier est toujours détenue à Fleury-Mérogis, condamnée à perpétuité, âgée de 74 ans. Elle est la seule à encore détenir certaines vérités. Dans la série documentaire Le Magot, l'ancien postiche Robert Marguerie regrette et dit « On a aidé Fourniret sans le vouloir, c'est incroyable, c'est satanique. »
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Le Magot des postiches, notre invitée Patricia Touranchot, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et autrice de deux ouvrages, Les Postiches, un gang des années 80, publié chez Fayard, et Le Magot, édité, lui, au Seuil. Vous avez également adapté cet ouvrage en série documentaire, intitulé Le Magot, réalisé par Pierre Chassagneux, et diffusé sur Canal+. Bien.
Tout à fait.
Alors, d'abord, moi j'ai envie de savoir comment vous avez découvert ce scoop, à savoir que l'argent du Magot des Postiches avait atterri dans les mains des Fourniret, et ce que, en tant que journaliste, vous avez ressenti, parce que vous êtes une passionnée de ce qu'on appelle le fait divers, des histoires police-justice, ça a dû être un grand moment quand même.
Ah oui, non, mais ça, c'est un des plus grands moments de ma vie, c'est énorme. En fait, je prends l'affaire fin juin 2004, donc les Fourniret, Monique Olivier vient d'avouer 9 assassinats commis par son mari. Elle explique qu'un crime diffère, celui de Farida Hamish. C'était pour l'argent. C'était un meurtre crapuleux pour voler un magot dans un cimetière. Et moi, je fais des bonds comme ça et j'ai une intuition parce que je viens de terminer mon livre sur le gang des postiches le mois précédent. Dans mon livre, je sais que les postiches ont enterré une partie de leur butin dans un cimetière et je me dis, mais si ça se trouve, c'est ça. C'est ce qu'ils ont piqué, les Fourniret. Et en même temps, je me dis, mais t'es dingue. Hein. Tu peux pas... Là, tu deviens folle. Tu mélanges tout. T'es obsédée par le gang des postiches. Là, tu t'occupes des Fourniret. Ça n'a rien à voir. Basta. Et je n'en parle surtout à personne. J'y dis, ils vont me prendre pour une dingue. Même à mon compagnon, je ne lui dis pas. Et en fait, bah, je continue à travailler sur l'affaire Fourniret pendant 12 jours, sans rien manifester, sauf que la nuit, ça me réveille. Et je me dis, mais punaise, mais si c'était ça? Et j'essaye de me rassurer en me disant, bon, pour des bandits, enterrer des lingots d'or dans un cimetière, c'est plus répandu qu'on ne croit. Les Corses, ils le font aussi, d'autres voyous le font aussi, ça n'a peut-être rien à voir. Et puis, comme ça me réveille et ça me donne des cauchemars, un matin, j'arrive à Libé et je dis à mes chefs, il me faut absolument quelques jours, j'ai une idée de malade, mais je voulais même pas leur en parler. Ils me disent, mais les chefs me disent, mais si, mais dis-nous. Et je dis, je me demande si ce qu'a volé Fourniret, c'est pas le magot des postiches. Et là, mes chefs me disent, tu prends le nombre de jours que tu veux,
bah oui,
et tu bosses. Et donc, j'ai gratté, c'était la galère. Mais bon, j'ai fini par recouper mes informations, avoir la confirmation que Esposito, El Guarche et Fourniret avaient bien été ensemble à Fleury-Mérogis, enfin, pas à la même époque. Bon, bref. Et en fait, à la fin, il y a quelque chose que, enfin, j'arrivais pas à vérifier. Et donc, j'ai mis le marché en main de la police judiciaire de Versailles en leur disant, voilà, si ma théorie s'avère juste, c'est un énorme scoop, mais il sera pour moi, vous faites pas des rapports à la direction de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur, vous me le dites d'abord à moi, mais voilà, est-ce que Esposito était bien en tôle à ce moment-là, en mars-avril 88, avec El Guarche, à Fleury-Mérogis? Et là, en fait, ils ont vérifié la fin pour moi, Et le directeur de la PJ de Versailles m'a appelé en me disant « Mais bingo, Patricia, c'est bon !» Et là, sa réaction est dit, mais on est des cons, on est franchement des cons, parce que on l'a asticoté, El Gouache, évidemment, on a son interrogatoire qui m'avait été lu sur d'où il tirait ce fric qu'il avait envoyé Farida chercher avec les Fourniret. Et lui avait répondu, c'est un codétenu italien d'extrême droite qui s'était évadé de la prison de Rome, etc. Et les flics lui avaient demandé quel est son nom. Et en fait, El Gouache ne s'en souvenait plus, ou il voulait pas s'en souvenir, j'en sais rien. Il leur a dit, je m'en rappelle plus. Et là, les flics se sont dit, mais il nous ment, il n'existe pas cet Italien. En fait, El Gouache, il est pas net. C'était peut-être son propre butin de braquage qu'il avait enterré là, ou le trésor de guerre d'Action Directe, etc. Voilà.
Bon, mais merci pour ce récit. Dans le récit, c'est une histoire, vraiment dans l'histoire. Alors, quelles ont été les différentes réactions? C'est la police, vous l'avez dit, mais les postiches, les Fourniret, El Gouache, enfin tout ce beau monde, quoi.
Alors, les postiches, avant de sortir le scoop, je les appelle. J'appelle Marguerite en Thaïlande, je les appelle tous. Et je leur dis, mais vous savez, votre truc, votre magot dans le cimetière, c'est Fourniret qui l'a piqué. Et là, mais écœuré, quoi. Robert Marguerite, il me disait, non, mais c'est pas possible, ce salopard qui a violé des gamins et tout, mais on va le buter, mais c'est quoi? On a armé son bras, enfin, bon, les postiches, écœurés, culpabilisés. Parce qu'ils disent, bon, dans notre milieu de voleurs, on peut se faire barboter, carotter de l'argent, c'est classique, mais se faire carotter, escroquer par des voleurs, c'est la règle du jeu. Mais se faire piquer du fric par un sale pédophile qui a tué des gamines, mais ça, il n'en revenait pas.
Surtout qu'il le prenait pour un pauvre type, hein.
Ben, El Gouache, oui, ouais. Il l'a sous-estimé gravement. Et il s'en veut énormément de ça. Il a été naïf, c'est pas possible d'être aussi naïf dans ce milieu. Quoi. Moi, je lui ai dit, Jean-Pierre, mais comment t'as pu être aussi naïf? Mais en même temps, les Fourniret ont vraiment bien manœuvré, bien manipulé tout le monde au moment de la disparition de Farida. Vous l'avez dit, le coup de la voiture de Farida qu'ils emmènent sur le parking d'Orly, c'est pour faire croire qu'elle s'est envolée avec un amant et avec le fric. Après, ils participent aux recherches, ils en fument tout le monde. Monique Olivier vient voir Jean-Pierre au parloir. Mon pauvre Jean-Pierre, on est inquiet. Farida, on ne sait pas où elle est, etc. C'est, voilà. Et la justice, ils ont réagi moyennement, quoi. La justice, un petit peu vexée, quoi. Donc, ils ont fait enquêter quand même sur mon hypothèse, qui s'est affairée réelle. Les Fourniret ont été jugés pour ça 10 ans après le premier procès de Charleville-Mézières, donc en 2018 à Versailles, pour l'assassinat de Farida Hamish et le recel de vol du butin des postiches.
France Inter. Affaire sensible.
Patricia Tourangeau, cette histoire de magot dérobé par Fourniret, ça a dû créer un sacré malaise dans la bande des postiches. Ils se sont embrouillés ensuite.
Ben oui, bien sûr, parce que les uns après les autres, au fur et à mesure qu'ils sortaient de prison, ils allaient fouiller discrètement dans le cimetière. Donc le premier qui y va, c'est Patrick Jay, vous en avez parlé tout à l'heure. Ensuite, Bébé Laïche, Mishka, pas Marguerite, parce qu'il avait juste quelques pièces que les autres avaient enterrées dans ce cimetière. Mais en fait, il n'y a plus rien. Mishka, il en est malade, il n'y a plus un jaunet, comme il disait, plus une pièce d'or. Et du coup, Mishka se met à soupçonner Patrick Jay, qui est sorti le premier, qui est peut-être passé avant lui, parce qu'il est en cavale, Patrick Jay, ça coûte très cher une cavale. Et donc il le soupçonne. Et puis après, il se met à soupçonner André Belaïche, qui a monté ses boutiques de disques. Donc il se dit avec quel argent, quoi. Et donc, ça crée une sale ambiance. Et jusqu'au bout, jusqu'à son suicide, en fait, Mishka n'a jamais su qui lui avait piqué l'argent. Mishka, c'était le voleur de voiture au départ, c'était le prolo de la bande. Et c'est lui qui avait maçonné la planque à hier dans l'Essonne pour planquer une partie du magot. Mais Mishka, c'était le plus fragile et le plus malheureux de la perte de son trésor, en fait. Mmh. Donc, quand il est parti en tôle, tout ce qui était caché dans la villa d'hier a été saisi par la police. Mais lui, il comptait sur ce qu'il y avait dans le cimetière, et quand on est en prison et qu'on n'a plus rien, ben ça permet de tenir. Et là, en fait, ben il sort avant son procès, il va fouiller dans le cimetière, il n'y a plus rien. Donc, il est dévasté.
Alors, Mishka, justement, on va écouter un extrait de votre documentaire, Le Magot. Ce sont deux anciens membres du gang des Postiches qui en parlent, Michel Chelaoui et Robert Marguerite.
Moi, je me pose toujours une question là-dessus. Si Mishka ne s'est pas suicidé à cause de ça, d'avoir perdu son oseille.
Quand tu es en prison, tu vois pas, quand tu es tout seul dans ta cellule, après tu gamberges et tout, tu deviens fou. Et puis après, il a perdu toute sa monnaie et tout, tu vois pas.
Non, ça a contribué à son suicide.
Oui. Bah oui,
s'il avait plus de thunes.
À mon avis, ouais. Jean-Claude Mishka vient me voir en Thaïlande. J'ai partagé de l'argent avec lui parce que j'ai récupéré de l'argent qu'on me devait. Je lui ai dit reste, il n'a pas voulu rester, il est rentré. Tout allait bien, et puis je sais pas, il paraît qu'il s'est baladé avec un calipe pendant 8 jours, et puis il s'est mis une balle dans la tête.
Voilà, j'ai tenu à ce qu'on entende la voix de ces gens et la façon dont ils s'expriment. Qui sont ces gens ?
Super. Dans la série, avec Pierre Chassagneux, on les avait mis dans un petit bar à Pigalle, et donc ils parlent tous les deux, Michel Chelaoui, qui était le montant l'air, enfin plutôt un chat de gouttière, plutôt un cambrioleur à la base, et Robert Marguerite Bichon, qui lui est un pionnier du gang des Postiches, plutôt un blouson doré, mais qui était parti dans le grand banditisme. Et les deux, ils étaient là, chez Laoué, avec sa petite casquette et tout. Enfin, on le voit dans la série, elle est visible sur Canal, hein, encore,
oui,
le
magot. Oui, absolument.
Et les deux conversaient un petit peu de leur premier coup, comment ils se sont connus, eux, leur premier... l'ambiance avec les Postiches, comment ils se déguisaient, comment ils partageaient ces pièces d'or, ces lingots dans des espèces de soirées démentes où, à la fin, ils lançaient en l'air toutes les pièces et c'est celui qui allait sauter dessus le premier qui les ramassait. Enfin, c'était un délire. Ils ont flambé, ils ont piqué des millions.
Ouais. Et ils ont fini quand même arroseur arrosé.
C'est sûr, alors là, et par qui ?
Bien, merci infiniment, professeur Touranchou, pour votre connaissance de cette affaire. Merci, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Magot des Postiches, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.